Ne faites pas une campagne d'installer, ce sera plus dur que ça ne l'a jamais été. C'est ce qu'a lancé le président Emmanuel Macron il y a quelques jours aux 500 candidats investis pour les législatives dans les Hautes-Alpes ce matin, dans le 8h30. L'une d'entre elles, Pascale Boyer, bonjour.
Bonjour, bonjour Cyrielle, bonjour à tous.
Députée sortante, La République En Marche, sur la première circonscription des Hautes-Alpes. 2017, on se souvient, vous aviez été élue, il y avait en France une véritable vague de renouveau avec le mouvement En Marche. Désormais, ça ne sera pas la même configuration politique parce que vous allez être garante d'un bilan et présidentiel et législatif. Quand Emmanuel Macron dit « ça sera plus dur que ça ne l'a jamais été », vous êtes d'accord avec ses propos ?
Bien évidemment qu'une élection n'est jamais facile, donc en étant sortante, et il est évident que c'est jamais très facile de reposer sa candidature et d'être élue. Mais quand on a un bilan quand même, comme nous l'avons eu avec la majorité présidentielle et sur la mandature précédente, je pense que les Français sont conscients, et notamment les Hautalpins, que la majorité présidentielle a œuvré pour les protéger, notamment pendant la crise sanitaire, où, bien évidemment, le gouvernement a porté la montagne, a soutenu la montagne.
Autre phrase qui a été lancée par Emmanuel Macron, « Ne vous laissez pas intimider par ceux qui veulent rejouer le match ». C'est ce qu'il vous a lancé. On parle, même sans le nommer, on parle de Jean-Luc Mélenchon.
Oui. Alors, effectivement, Jean-Luc Mélenchon joue sur un tableau d'élection de Premier ministre. Mais malheureusement, dans la loi française, un Premier ministre n'est pas élu. Donc, il positionne les législatives sur un mandat national et sur son mandat national. Il rejoue les présidentielles, alors que là, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte que des élections présidentielles. Là, nous sommes dans une élection où nous allons élire des parlementaires, des députés qui vont représenter les Français au sein de l'Assemblée nationale.
La NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui réunit la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie des Verts, cette union des gauches, Michel Rivasi, l'eurodéputé, disait la semaine dernière sur Alpe 1, il faut le dire ce qu'il y est, le pari, il est historique, il est réussi. C'est vrai que cette union des gauches, ça fait depuis des années qu'on ne l'a pas vu en France. C'est quelque chose que vous redoutez ?
Écoutez, le pari est réussi. Le pari, on verra s'il est réussi le 19 juin au soir, au vu des résultats des élections législatives au niveau national. Pour l'instant, oui, il y a un accord. Est-ce qu'il est historique ? Peut-être. C'est ce que les NUP le disent. Pour le moment, attendons de voir quels vont être les résultats de cet accord.
Quel adversaire politique vous redoutez le plus dans ces législatives ? On va rappeler quand même, pour les présidentielles, le score qu'a pu faire la France Insoumise, le score aussi qu'a pu faire le Rassemblement National, qui grignote du terrain à chaque fois. Alors, quel adversaire politique vous redoutez le plus aujourd'hui ?
Je n'en redoute aucun. Tous les adversaires sont à respecter. Je mets au même niveau tous les adversaires politiques. Bien sûr qu'il y a eu une montée du Rassemblement National, pardon, et de la France Insoumise en département. Mais il ne faut pas oublier que notre département est quand même sorti au premier tour avec un score pour Emmanuel Macron majoritaire. Au deuxième tour, ça a été identique. Nous étions deux départements dans la région à sortir Emmanuel Macron majoritaire. Donc oui, effectivement, il y a des adversaires politiques qu'il faut, on va dire, combattre, parce que effectivement une élection c'est toujours un combat. Mais moi je n'en redoute pas plus un qu'un autre ou une autre, parce que tous les adversaires sont à respecter et nous sommes là pour débattre sur des débats républicains.
Parlons notamment du programme et de ce qui concerne directement les Hautes-Alpes et votre circonscription, la première. Cette semaine, on a relayé cette enquête du site seloger.com. Les Hautes-Alpes sont une véritable passoire thermique, énergétique. 38% des appartements, et non pas des maisons, mais des appartements vendus, sont en classe F ou en classe G. Il va y avoir un véritable chantier à mener dans les Hautes-Alpes, ça fait des années qu'on en parle, en matière de réhabilitation, de rénovation, et ça va coûter cher tout ça.
Alors évidemment, effectivement, quand on voit ce chiffre, 38% des logements vendus qui sont des passoires énergétiques, en plus, dans un département comme le nôtre, où on est quand même confronté à des aléas climatiques assez forts, et notamment à des températures assez basses l'hiver, il faut faire quelque chose. Mais nous sommes aussi confrontés à un département où nous sommes le premier département à avoir autant de résidences secondaires. Or, on sait très bien que dans les stations de ski, nous avons, comme nous les appelons dans notre jargon, des lits froids qui ne sont pas forcément occupés et qui ne sont pas forcément rénovés. Ça peut-être aussi un peu biaiser le chiffre des 38%. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas agir, bien évidemment. Moi, je pense notamment à tous les logements sociaux qui sont à rénover et aussi tous les habitats de tous les hauts alpins, on va dire, qui ne sont pas forcément des logements sociaux.
Le débat sur le travail et la retraite, forcément, on estime que ça va bloquer avec ce qui est inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron, faire reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. On s'imagine bien que la réforme ne sera pas populaire. Alors comment on la fait passer avec des mots plutôt qu'avec le 49-3?
Alors effectivement, moi je serais plus pour la faire passer avec des mots que par le 49-3. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les parties prenantes soient concertées. Et c'est dans le dialogue et dans la concertation que les choses se passent normalement plus facilement et plus consensuellement. Alors cette réforme, bien évidemment, ce report de l'âge de la retraite à 65 ans, voire 64 ans, bien sûr que on le sait tous, nous vivons déjà plus âgés. Donc forcément, nous vivons mieux, en meilleure forme, plus longtemps. Mais cette réforme de la retraite va prendre en considération tous les métiers dits pénibles et toutes les conditions, la pénibilité de tous les métiers. Et donc ceci sera pris en considération.
Mais ensuite, pris en considération comment? On va faire des discussions dans les entreprises? C'est une confiance presque aveugle au chef d'entreprise?
Alors non, ce sera pas. Enfin, après, les négociations sont en cours et tout ça sera discuté avec les partenaires sociaux, avec les chefs d'entreprise, avec les branches. Donc, pour l'instant, c'est en discussion. Donc, la réforme n'a pas encore été présentée par le gouvernement. Donc, mais effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y a un dialogue social important autour de cette réforme pour qu'il y ait du gagnant-gagnant pour tout le monde.
Et pour éviter la crise sociale.
Et pour éviter la crise sociale, mais surtout pour que les Français puissent aussi être protégés. Parce que l'allongement de l'âge de la retraite, ça veut dire évidemment des cotisations en plus, mais c'est aussi pour financer d'autres réformes, et notamment la réforme sur l'autonomie et le grand âge.
Je le disais, éviter la crise sociale. Pourquoi? Parce que la France est une véritable cocotte minute sociale. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a eu un vote, et un véritable vote de mécontentement. Et forcément, ce qu'on voit arriver derrière dans les thèmes les plus attendus par les Français, c'est le pouvoir d'achat. Il y a pourtant une étude, c'est l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui n'est jamais vraiment très doux avec le président Emmanuel Macron, sauf que dans cette étude, il est considéré que le revenu réel des Français, des ménages, c'est-à-dire hors inflation, a progressé de 0,9% sur l'ensemble du quinquennat, après avoir quasiment stagné pendant des années, notamment depuis 2008. Alors, concrètement, ça représente 294 € par an en plus, contre 16 € sous François Hollande et 78 € sous Nicolas Sarkozy. Et ce sont les classes moyennes et les plus modestes qui en ont le plus profité. Pourtant, les Français n'y croient pas, ne pensent pas que leur pouvoir d'achat a augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce que les dépenses contraintes, c'est-à-dire logement, énergie, ça a augmenté et ça pèse lourd dans les portefeuilles. Et ça, cette hausse des prix de l'énergie, on en parle de plus en plus avec la crise ukrainienne.
Oui, effectivement. Alors, c'est tout à fait ce que vous venez de dire. C'est que les dépenses contraintes ont forcément augmenté. Donc, ça biaise l'impression de ne pas avoir bénéficié d'une augmentation du pouvoir d'achat. ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais malgré tout, les chiffres sont là, vous venez de les évoquer, et effectivement, il y a eu un gain important du pouvoir d'achat pendant notre mandature.
Mais il va y avoir un choc inflationniste, et on le sait, dans les prochaines semaines.
Oui, tout à fait. Et alors, pour lutter contre ce phénomène d'inflation, le gouvernement enfin, a annoncé hier, lors du dernier Conseil des ministres, que le projet de loi de finances rectificatif sera présenté au Parlement dans la foulée des élections législatives.
Oui, d'ici l'été. Et il y aurait de quoi dans cette fameuse loi qu'on appelle aujourd'hui loi sur le pouvoir d'achat ?
Alors, parce qu'il est important, effectivement, de protéger les Français et de protéger leur pouvoir d'achat. C'est un des engagements du président de la République au cours de sa campagne des présidentielles. Alors, ce texte, déjà, prolongera le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, et ce jusqu'à la fin de 2022. Il poursuivra aussi la remise des 18 centimes du carburant avec la mise en place d'un dispositif pérenne, et ça c'est extrêmement important. Il continuera la baisse des impôts avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel. Ça avait été proposé dans le cadre de la campagne des présidentielles. La revalorisation au mois de juillet des pensions des retraités en les indexant sur l'inflation. Ce sera fait à partir du 1er juillet. D'habitude, ça n'est fait qu'une fois par an, au 1er janvier. Et là, effectivement, pour que aussi nos aînés puissent être protégés de l'inflation, le gouvernement et nous, en tant que députés, si effectivement je fais partie de ceux qui seront réélus, nous voterons bien évidemment cette revalorisation des pensions. Il y aura aussi le triplement de la prime Macron qui est proposée, la baisse des charges pour les indépendants, qui peut représenter pour un indépendant qui gagne le SMIC 550 euros par an de gains. Il va y avoir aussi le point pour la fonction publique qui sera dégelé. Les prestations sociales seront revalorisées au 1er juillet et on n'attend pas le calendrier habituel. Et le chèque alimentaire sera lancé.
Oui, je reviens juste sur la prime Macron. Vous le disiez, hein, elle pourrait être triplée dès cet été. Donc aujourd'hui, elle a 1 000 euros. Elle pourrait passer à 2 000, voire même 6 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés. Sauf que, on le sait, cette prime, elle est basée sur le volontariat. Il n'y a aucune obligation pour l'employeur de la donner. Qui a touché la prime Macron ?
Moi, je pense qu'il y a eu pas mal de salariés qui ont touché la prime Macron parce que déjà l'intérêt de l'employeur, c'est que quand on a un bon salarié, bah, c'est de le récompenser. Donc pouvoir lui donner une prime en fin d'année ou pour le récompenser de ses bons et loyaux services, je pense que c'est important. Et quand c'est défiscalisé aussi bien pour le salarié que pour l'employeur, je pense que effectivement ça incite les employeurs à donner cette prime Macron. Bien évidemment, c'est sur la base du volontariat de l'employeur, mais je pense que beaucoup de salariés en ont bénéficié.
Et l'augmentation du SMIC, on en a beaucoup parlé. Augmentation du SMIC, oui, mais pas pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont juste au-dessus.
Oui, alors effectivement, mais l'augmentation du SMIC, c'est justement ceux qui sont juste au-dessus. Mais faut savoir aussi que l'augmentation du SMIC, c'est aussi rentrer dans une démarche inflationniste et ça n'arrange rien au niveau de l'inflation.
Merci beaucoup Pascale Boyer d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes députée sortante sur la première circonscription des Hautes-Alpes et donc candidate pour ces législatives pour La République En Marche Renaissance. Merci à vous.